RCF.
Niché sur le plateau de la forêt de Haye, le Spéléodrome de Nancy est un aqueduc souterrain. Il servait au début du XXe siècle à alimenter la population en eau. Depuis, le lieu a été fermé. Mais 3 km de galerie se visitent. Reportage avec Benoît Brochin et Jean-Michel Guyot, membres de l'Union spéléologique de l'agglomération nancéenne. Ils vont être notre guide pendant cette visite qui commence par un peu de marche. Benoît, est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes ?
Là, en fait, on se trouve à Villers-les-Nancy, autour du lotissement de Clairlieu, pour visiter donc notre spéléodrome.
Qu'est-ce que c'est un spéléodrome ?
Alors en fait, c'est un ancien réseau qui servait à alimenter Nancy. Bah, petit à petit, il a été abandonné. Depuis, en fait, on s'en sert pour s'entraîner à la spéléo. Donc c'est un réseau qui alimentait en eau Nancy en eau. Ça a été construit début 1900, terminé en 1906. Au niveau du prix, je crois que c'était à peu près 1 000 000 de francs. Ancien, hein. Et une centaine d'ouvriers, en fait, jour et nuit. Hein. Voilà, ça a été exploité pendant une vingtaine, trentaine d'années.
Édouard Rimbaud et François Villain, qui ont été les inventeurs du captage d'eau.
Et après, en fait, ça a été abandonné parce que...
La population de Nancy a doublé avec l'annexation de la Lorraine, etc. Et donc, ça ne suffisait plus en apport quotidiennement. Et on a été faire un captage plus loin dans la Moselle. Alors, ça a été fermé 1940, à peu près.
Pourquoi ça a été creusé à Villers ?
Alors en fait, on se trouve sur un plateau calcaire avec une couche de marne étanche en dessous. Donc Édouard Rimbaud a imaginé de récupérer de l'eau dans une zone non polluée en fait, qui se trouve sous la forêt de Haye. Parce que toute la zone de Nancy avait des puits pollués, avec des problèmes de maladies, la population qui augmente. Donc vraiment, ça devenait une catastrophe. Il fallait vraiment trouver quelque chose, une solution. Il a commencé à creuser à flanc de coteau depuis Nancy au domaine de l'Année. Ils sont partis en direction de la forêt de Haye, qui a creusé dans du minerai de fer, juste en dessous d'une couche étanche. Ensuite, une fois les galeries terminées, il y a des trous qui ont été percés au plafond. Ça perce une couche étanche de marne, qui fait à peu près 1 mètre d'épaisseur, qui va libérer l'eau de la nappe phréatique accumulée en dessous. Donc en gros, après, c'est une galerie drainante, en fait. On récupère de l'eau dans un petit canal, qui après rejoint Nancy gravitairement.
L'eau, elle est toujours aussi pure aujourd'hui ?
Oui. Alors le débit de la source a énormément baissé parce que vous allez vous en rendre compte, l'eau est très calcaire. Vous avez pas mal de, donc des perles de calcaire, hein, de calcite. Et vous allez voir qu'à force de marcher dedans, en fait, ça va vite vous casser les pieds tellement ça roule.
Et c'est un site unique en Europe au niveau de la production de perles de caverne. Il n'y a rien à faire, mais la galerie se remplit petit à petit. Et à un moment donné, on marche effectivement dans 20 cm de perles.
Tous les trous ont tendance à se boucher. C'est un des problèmes qui a conduit à son abandon.
On doit quand même s'attendre à avoir les pieds dans l'eau.
Ah tout à fait, oui. Vous allez avoir de l'eau alors au niveau des chevilles. Parfois, ça peut aller jusqu'aux genoux, un peu au-dessus. Ça dépend des zones.
Est-ce qu'il y a de la biodiversité qui s'est développée ?
Un petit peu. On verra près de la sortie, notamment. Il y a des Nifargus et des Secoscopheroma.
C'est quoi ?
Alors, les Nifargus, ça ressemble à des espèces de petites crevettes. Et les Secoscopheroma, ça ressemble à des cloportes qui sont tout blancs parce que bah, pas de lumière. Ils étaient déjà là avant le creusement du spélodrome. Hein. C'est des animaux qui vivent dans les failles du calcaire de la Terre, en fait.
Il est toujours fermé au public ?
Ah, il est verrouillé, là, pour des raisons de sécurité. Puisque là, on va commencer par un puits de 60 mètres. Il vaut mieux qu'il y ait une porte cadenassée.
Vous ouvrez parfois pour les journées du patrimoine, pour des groupes scolaires ?
C'est ouvert à toutes les journées du patrimoine, puisque c'est un site patrimonial, et c'est ouvert toute l'année à des groupes constitués.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, Jean-Michel ? Vous êtes spéléologue de métier, de passion, et depuis quand vous avez commencé ?
Alors, je suis spéléologue, pas de métier, c'est une passion, effectivement. Ça fait 40 ans que j'en fais. On commence à avoir l'habitude, un peu ici.
Est-ce que vous êtes toujours surpris ou émerveillé de cet endroit ?
Absolument. Vous allez découvrir, c'est merveilleux. La façon dont c'est maçonné, la façon dont ça a été fait à l'époque, c'est beau.
Benoît, je me tourne vers vous pour savoir comment vous êtes tombé dans la marmite de la spéléologie.
À l'origine, c'était avec un ancien collègue. On était attirés, mais sans plus. Et puis un beau jour, on est tombé justement sur les journées du patrimoine où il y avait la visite du spélodrome. Donc on a commencé comme ça, on est allé voir, on a visité.
Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Bah que c'était joli, on n'aurait jamais soupçonné ça sous nos pieds. Et petit à petit, la spéléo, c'est quand même bien. Et puis voilà, du coup, on a mis le pied dedans, quoi.
Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire les caractéristiques techniques du lieu ?
Il y aura 3 km à faire en dessous et 3 km à refaire au-dessus pour revenir à la voiture.
On va traverser le lotissement de Clairlieu en tenue spéléo. Donc des fois, les gens nous regardent un peu bizarrement.
Pour descendre à 60 mètres de profondeur, on ne peut pas y aller comme ça. Il faut être un minimum équipé. Qu'est-ce qu'on doit revêtir ?
À l'époque, en fait, ils descendaient sur une simple échelle. Donc vous allez voir, il y a des restants de barreaux plus ou moins pourris. Il y en a qui tiennent, il y en a qui tiennent pas, et comme ça sur 60 mètres. Donc à l'époque, ouais, la sécurité, c'était pas trop ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Bon, on vous a mis des baudriers.
On les entend d'ailleurs.
Voilà, on les entend teinter avec les mousquetons. Et après, on va accrocher une corde en haut. Et puis en fait, on va vous descendre avec ce qu'on appelle un descendeur.
Ouais, une descente en moulinette, c'est-à-dire que c'est nous, en surface... qui allons gérer la descente manuellement. Le client n'a rien à faire qu'à apprécier la descente.
C'est un lieu où il faut s'attendre à ce qu'il fasse tout noir et c'est pour ça qu'on est équipé aujourd'hui de lumière sur nos casques.
Tout à fait, il fait tout noir. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien qui passe. Tout ce qui est téléphone, GPS, pareil, on oublie. On est vraiment isolé de tout. Il y a juste les champs magnétiques qui subsistent, chose qui est pratique en fait pour s'orienter. Donc quand le réseau a été creusé, par exemple, à l'époque, c'était tout à la boussole et au mètre. Et on approche.
On va tourner dans ce petit chemin, là.
Là, nous bifurquons en direction de la tête de puits.
C'est la structure que je vois là qui se dresse en pierre.
Voilà.
Le principe, c'est qu'on rentre à quatre, on ressort à quatre.
On va essayer. Oui, c'est le but, quand même. Les groupes, il faut... C'est de la cohésion, donc on va rester tous ensemble tout le long.
Et on va passer combien de temps sous terre ?
En spéléo, on sait quand on entre, on ne sait pas quand on sort. Bon, 3 heures, c'est raisonnable. Là, surtout qu'on est un petit groupe, donc ça devrait défiler. Mais ce n'est pas toujours le cas dans des cavités naturelles.
Il faut s'attendre à ce que ce soit un peu bas de plafond ?
À certains endroits, oui, il faut se baisser. Bon, ça ne dure jamais très longtemps, mais ouais, il faut marcher un peu la tête courbée ou pencher un peu.
Voilà. Comment on descend ?
Non, alors là, Benoît va descendre avec le descendeur spéléo directement sur corde fixe. Et là, avec le système de poulie, là, vous voyez, moi, je vais vous descendre comme un sac de patates. Et c'est moi qui vais gérer d'ici avec le descendeur là.
Ça annonce tout tranquille, finalement.
Selon le client, la vitesse qu'il veut descendre, on peut mettre 5 minutes ou 10.
On vient de descendre les 60 mètres, presque dans ce puits.
Voilà.
Et on arrive les pieds dans l'eau.
Tout à fait, dans l'eau. On est non loin dans ce qu'on appelle le collecteur. Donc en fait, c'est la rivière principale. Là. Donc là, on est dans une petite ramification. Puis après, on va rejoindre la rivière principale avec son eau toute pure, transparente. Parce qu'il faut savoir que le puits par lequel vous êtes descendu, à l'origine, il était comblé sur à peu près un tiers de déchets divers, en fait, lors de la construction du lotissement de Clairlieu. À l'époque, on ne se souciait guère de qu'est-ce qu'on fait des déchets, donc on a ressorti des lave-linges. Ça a été une belle épopée pour le club de désobstruer des ordures, quoi.
Il y a quel taux d'humidité ?
On est quasiment à 90-100%, en fait. La moindre feuille va se ramollir instantanément.
Le mur est presque en train de briller avec des couleurs argentées.
C'est des gouttelettes, en fait, qu'on peut mettre le doigt dessus. Vous allez voir, hop, ça s'écrase. Et c'est de l'eau, en fait, ça condense sur le mur. On est tout en amont du réseau, en fait. C'est-à-dire là où les ouvriers de l'époque, en fait, ont terminé le creusement de la galerie. On va redescendre le courant. On va pas aller jusqu'en bas parce qu'en fait, la fin de la galerie, elle est toute bétonnée et elle fait à peu près 1 mètre de haut de plafond. Donc, ça n'a aucun intérêt à visiter. On remontera avant par un autre puits intermédiaire qui servait d'inspection.
100 mètres par là, on est en butée. Voilà, alors là, vous découvrez une belle concrétion qui descend du plafond, qui est l'orifice des percements qui vont chercher l'eau. Donc là, ça faisait des douches. Il y avait des douches complètes régulièrement. Et qui s'obstrue au fil du temps.
On dirait presque quelque chose d'animal, comme une anémone.
Tout à fait. On en aura des plus belles encore un peu plus loin. Là, ça a été oxydé par la rouille.
C'est dû au minerai de fer.
Qu'est-ce qu'on a là, vous nous disiez ?
Alors là, on a des encoches dans les parois. Et c'est donc, à l'époque, la technique minière est bien connue. Creuser le plafond et la galerie. Et à un moment donné, pour soutenir le plafond, ils mettaient une poutre ici, entre ces deux encoches. Si le plafond était sûr, hop, on démontait. Si ça n'était pas sûr, on passait avec une poutre en béton. On verra un peu plus loin, il y a carrément, à un moment donné, des tunnels en béton qui sont construits parce que vraiment le dessus était très fragilisé.
On a vu un peu plus tôt aussi une pancarte accrochée au mur. Alors, il n'y a plus rien dessus.
Oui, alors les pancartes, là, c'est la distance par rapport à ce qu'on appelle l'œil de la galerie. Et c'est là où le ruisseau va sortir à l'air libre. Là, on se trouve à peu près à 4900 mètres, et ainsi de suite. Et plus on se rapproche de la sortie, plus la distance diminue.
On vient de traverser un passage avec beaucoup plus de profondeur. L'eau, elle arrivait au moins au genou, avec une grosse porte en ferraille. C'était quoi cet endroit ?
Alors, c'est ce qu'on appelle la porte de sous-marin, qui, une fois la galerie creusée, était fermée. Et donc, on comprend bien que ça allait ennoyer l'amont de la galerie. Ça faisait un volume énorme de réserve d'eau qu'on allait réguler ici avec des vannes. Et un petit bonhomme venait à pied, descendait le puits qui est là juste à côté et venait ouvrir ou fermer, en tout cas réguler à chaque fois manuellement l'eau.
En fonction des besoins.
Absolument.
On s'est arrêté où ici ?
Donc là, nous arrivons à la jonction qui s'est passée au 15 février 1906 où les deux équipes se sont rencontrées. On va, à ce moment-là, s'engager dans la faille de Clérieux qui est une double cascade en escalier de 12 mètres de dénivelé chacune.
C'est ce qu'on entend en bruit de fond derrière nous ?
Voilà, alors là, on commence à entendre effectivement la première cascade. On va aller dedans.
Jean-Michel, vous disiez tout à l'heure que ici, la Terre, elle a 170 millions d'années.
175 millions d'années, c'est-à-dire que c'était des fonds marins à une certaine époque. C'est pour ça qu'un peu plus loin, enfin, et partout au plafond, on peut voir des rostres de bélénites ou des coquillages de toute nature.
Des coquillages ?
Ah oui, 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 puisque là, c'était des fonds marins, donc il y avait de la vie sous-marine à l'époque.
Après avoir grimpé 30 mètres à l'échelle, nous voilà de retour à la surface et en plein jour. Cette visite insolite, nous venons de la terminer avec l'Union spéléologique de l'agglomération nancéenne. Le spéléodrome de Nancy est un endroit insoupçonné du grand public à visiter sous les hauteurs de la ville, notamment pour les journées du patrimoine, le dimanche 22 septembre, disponible à partir de 12 ans.